Chapitre 25. L'homme qui règne par la ruse et la félonie périra lui-même par la ruse et la félonie. Proverbe de Manhattan. Cité unifiée de Nilopa.
Nous n'avons rien à voir avec cette attaque.
Ganesh avait mis toute la force de sa conviction dans sa voix, mais elle n'eut aucun impact sur Scott. Il poussa brusquement Ava par l'épaule, lâcha la lampe et plongea avant que ne claque le premier coup de feu. La balle le manqua largement et percuta la cloison derrière lui. Il ramassa son tas, se releva 2 mètres plus loin, déverrouilla le cran de sûreté dans le mouvement et pressa la détente avant même d'avoir localisé Scott. Son rayon se perdit dans le vide. Doté de réflexes surprenants, Scott s'était déjà déplacé de quelques pas et tenait le fouineur dans sa ligne de mire. Ganesh esquiva le deuxième tir en se jetant sur le côté. Le projectile lui frôla la tête. Il se retourna et pressa de nouveau la détente en balayant tout l'espace devant lui. L'onde frappa le ventre de Scott qui sursauta et tenta, dans un dernier effort, d'abattre son adversaire. Ses muscles et ses nerfs, tétanisés par l'impact, refusèrent de lui obéir et il s'effondra lourdement sur le dos.
« Ava !» cria Ganesh. « Ça va, et merci de m'avoir broyé l'épaule !»
Il ramassa la lampe avant de se relever et rejoignit son équipière au centre de la galerie. Les hurlements et les staccatos des pistolets mitrailleurs semblaient se rapprocher d'eux. Elle récupéra l'arme rouillée qui gisait sur la terre battue près du corps inerte de Scott.
« Tu sais t'en servir ?»
Elle lança à Ganesh un regard assassin.
« Tu me prends vraiment pour une demeurée ?»« Bon, qu'est-ce que tu proposes de faire ?»«
Essayer de sortir vivant de ce merdier. »«
Le programme me va, mais ils vont nous canarder comme des lapins si on pointe le nez hors de cette galerie. »«
J'aimerais bien savoir qui sont ces îles et qui les a guidés vers l'entrée des souterrains. »«
Moi je m'en tape, j'aimerais juste retourner dans le périmètre de la cité. »
Ganesh prêta attention aux bruits environnants.
« Ils viennent vers nous, » reprit-il. « Si on reste là, on est mort. On n'a pas d'autre choix que de tenter une sortie par la bordure. »
« La bordure ? Les drones vont nous tirer dessus ?» Ava hocha la tête.
« J'ai pas toujours été bien inspiré de te suivre, mais d'accord, je viens avec toi. »
Elle avala un accélérateur nano-neuro, en proposa un à Ganesh qui le refusa. Ils parcoururent la galerie jusqu'à son extrémité. Elle donnait 200 ou 300 mètres plus loin sur une place circulaire d'où partaient 5 autres tunnels plus ou moins larges. Ils n'y croisèrent personne, mais repérèrent les 3 passages d'où provenaient les bruits et décidèrent de s'engager dans le plus étroit des 2 autres, qu'ils remontèrent d'une allure soutenue en dépit du genou d'Ava.
« T'es sûr qu'on se dirige vers la sortie ?»
souffla Ava.
« Je suis sûr de rien. Ma biopuce ne me donne aucune information. Va falloir se débrouiller. »
La galerie débouchait sur un immense espace hérissé de monceaux de pierres qui marquait probablement l'emplacement de tombes. Les cris et les aboiements des armes s'échouaient dans le silence comme des vagues frissonnantes. Ils traversèrent ce qui semblait être un gigantesque cimetière. Aussi loin qu'il porta, le rayon de la lampe n'éclairait que des tas de pierres coniques. Des piliers métalliques répartis à intervalles réguliers étayaient le plafond de la salle, perché à plus de 15 mètres de hauteur. De l'autre côté se dressait une paroi dans laquelle béaient les bouches noires d'autres galeries. Ils en empruntèrent une au hasard. Le rayon de la lampe révélait un sol de terre battue et une voûte rocheuse visiblement forée par des machines.
« Putain de labyrinthe !» ronchonna Ava. « On n'en verra jamais le bout. On finira bien par arriver quelque part. »
Le rayon de la lampe faiblit tout à coup, puis s'éteignit en quelques secondes.
« La poisse !»
pesta Ava. Ils s'immobilisèrent le temps que leurs yeux s'accoutument à l'obscurité et qu'ils discernent les parois et la voûte de la galerie. Puis marchèrent un long moment avant d'apercevoir une forme grise, mouvante dans l'obscurité. Ava leva avec nervosité le pistolet pris à Scott.
« Qui est là ?»
demanda Ganesh. Pas de réponse.
« Dis quelque chose, connard, ou j'appuie sur la détente de l'arme que je pointe sur toi !»
grogna Ava. La forme grise se figea. Puis 2 lumières bleutées s'allumèrent à hauteur de ce qui était sans doute son visage. Des frémissements parcoururent le cerveau de Ganesh, comme si les lueurs vives qui transperçaient l'obscurité réactivaient sa biopuce.
Êtes-vous sûr de maîtriser la situation ?
La voix n'avait pas eu besoin de changer de registre pour que Caton en perçoive les intonations menaçantes. Il n'avait jamais vu son interlocuteur, et il ne le verrait jamais. Il ne revêtait sans doute aucune réalité matérielle, ou, plus exactement, pouvait se présenter sous n'importe quelle forme. « Des citadins échappent à votre contrôle », poursuivit la voix. « Ils sont de plus en plus nombreux à se faire retirer leur biopus, ou à se réfugier dans des zones non couvertes par les matrices. »
Ceux qui se font retirer leur biopus sont assimilables à des hors-sites, déclara Caton. Ils relèvent donc de l'autre programme.
Les autres seront facilement localisés par les auxiliaires mobiles et les derniers satellites en orbite. Nous en avons fait l'expérience récemment. Le plan se déroule conformément aux prévisions.
Quand comptez-vous présenter la nouvelle génération de biopus au pouvoir centralisé de la cité?
J'ai demandé et obtenu audience.
Quand pensez-vous que tous les citadins en seront équipés?
Après le rendez-vous et l'accord des autorités, il nous faudra compter quelques semaines, le temps de les greffer.
Vous avez l'air certain de la réponse du maire de New York.
Les hommes de Caton, placés dans l'entourage de Jeffrey Dobbs, lui avaient déjà confirmé que la nouvelle biopus, plus performante, plus sécurisante, serait acceptée sans réserve et immédiatement imposée à l'ensemble de la population citadine.
Je n'ai aucun doute. Avez-vous éliminé tous les germes d'entropie?
La situation est sous contrôle.
Nous avons encore quelques incertitudes. Elles concernent la grub dissidente que vous n'avez toujours pas retrouvée. Le fouineur Ganesh Parvati, dont le comportement reste imprévisible, la Gémine, Mina Davro, qui a disparu sans laisser de traces. Qu'un seul de ces trois-là parvienne à alerter les pouvoirs publics et le plan tout entier serait compromis.
Les trois cas auxquels vous faites allusion seront bientôt résolus. Mes hommes sont sur les pas de Mina Davro et Vilma Callaghan. Quant à Ganesh Parvati, il est contrôlé par un programme spécial. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter.
L'inquiétude n'entre pas dans notre éventail de potentialités.
Je voulais dire, il n'y a pratiquement aucune chance que l'entropie interfère dans notre projet.
De nombreuses incertitudes sous-tendent le mot « pratiquement ».
Dans quelques jours, voire quelques heures, il aura disparu de nos échanges.
Vous avez été jusqu'ici un allié précieux. Il serait malvenu de votre part de faillir au moment crucial.
Caton ne put s'empêcher d'éclater de rire.
Sinon, vous m'éliminez ? Lança-t-il. Nous savons pertinemment, vous et moi, que, de toute façon, c'est le sort que vous me réservez.
La voix ne répondit pas, incapable de résoudre l'énigme proposée par son interlocuteur.
Comme j'aime le boulot propre, j'irai jusqu'au bout, reprit Caton.
Ce sera en quelque sorte ma grande œuvre.
Épargnez-moi vos menaces, elles n'ont strictement aucun effet sur moi.
Je vous rappelle seulement qu'il faut traiter tous les germes d'entropie jusqu'à ce que nous décidions de la solution finale.
Vos armées sont prêtes?
Dès que les nouvelles puces seront installées, nous lancerons nos troupes à grande échelle pour finir le travail.
Caton jubila intérieurement. Sans son intervention, ses interlocuteurs n'auraient jamais pu mener leur projet à terme. Il en était le véritable inspirateur, ainsi que la cheville ouvrière. Le mérite lui reviendrait, et à lui seul, de pousser l'humanité dans le gouffre, dont elle n'aurait jamais dû émerger.
La silhouette se remit en mouvement et s'avança vers eux.
Le bruit de ses pas ébranla le silence. Les poings scintillants, des lunettes spéciales pour voir dans l'obscurité, brillèrent de plus belle, jetant de furtives lueurs dans les ténèbres.
« Halte ! Ou je tire ! »
glapit Ava. La silhouette ne s'arrêtait pas. Ava ouvrit le feu. La balle atteignit sa cible, mais tinta contre ce qui semblait être une surface métallique et acheva sa trajectoire dans la paroi. Elle n'eut en tout cas aucun effet sur l'ombre grise, qui continuait d'avancer au même pas. Ava visa la tête puis le torse. À chaque fois, le projectile ricocha et se perdit dans l'obscurité.
« Putain, c'est quoi ce truc ?»«
Les balles ne lui font rien, » murmura Ganesh.
« Et c'est le Taz !»
Il pressa à son tour la détente de son arme. Le rayon éclaira la galerie et révéla un bref instant la silhouette. Un homme revêtu d'une armure et d'un casque intégral en métal gris et lisse, équipé d'un modèle de pistolet mitrailleur au canon court, que Ganesh ne connaissait pas. Les lumières bleutées brillaient par une mince fente située en haut du casque. Le rayon à haute densité le frappa à la poitrine. Il marqua quelques secondes d'arrêt, le temps que les particules électriques glissent sur son armure comme des gouttes sur une toile cirée, puis reprit sa marche, en pointant son arme devant lui.
« On fout le camp !» rugit Ganesh.
Ils foncèrent en courant et en louvoyant vers l'entrée de la galerie, craignant à tout moment d'être cueillis par une rafale de pistolets mitrailleurs, et se retrouvèrent dans le grand cimetière.
« On va où ?»
souffla Ava. Seules des plaintes étouffées troublaient désormais le silence. Ganesh observa les lieux.
« Par là !»
L'espace hérissé de tumulus se perdait dans une obscurité tellement dense qu'il ne distinguait rien, à plus de 5 ou 6 mètres. Le cimetière s'étendait sur des kilomètres. Ava éprouva le besoin de souffler et de détendre son genou douloureux.
« On l'a semé !»
souffla-t-elle en s'asseyant sur un tas de pierres. Ganesh aurait aimé en être aussi sûr qu'elle. Les frémissements émanant de sa biopuce l'intriguaient et l'inquiétaient.
« D'où il sort, ce mec ?»
reprit Ava.
« Tu crois que c'est une ombre ?»
Les velléités d'activité de sa biopuce avaient manifestement rapport avec l'apparition dans le labyrinthe souterrain de ceux que Scott avait appelés leurs petits copains.
« Je crois pas, » répondit-il.
« Les ombres n'utilisent pas d'armes à feu, mais il y a sans doute un lien entre ces tueurs et elles.
Je croyais que les populations hors-site avaient perdu toute technologie. L'armure de ce mec me paraît pourtant faite d'un alliage sophistiqué. »
« Rien ne dit qu'il vient du pays hors-site.
D'où alors ?»
Ganesh haussa les épaules. « J'en sais rien. D'ailleurs, peut-être. Ailleurs, sur le plan géographique, avait dit Théo. » Un flot de données déferla tout à coup sous son crâne. « Détection de particules d'un gaz toxique. C4H10FO2P. Formule chimique de type sarin.
Merde, ils sont en train de gazer les galeries !»
Ava huma l'air pendant quelques instants.
« Je sens rien. Qu'est-ce qui te fait dire ça ?»« Ma biopuce est remise en activité.
Normal que tu ne sentes rien. Le sarin est inodore. Ils veulent être certains de ne laisser aucun survivant derrière eux.
Ils auraient pu simplement gazer les galeries et descendre ensuite pour vérifier le travail. »
Il savait sans doute que la population souterraine s'était organisée contre les gazages.
« Si on continue de respirer cette saloperie, on va crever comme des rats dans une nasse !»«
Seuil d'alerte bientôt atteint. Seuil d'alerte bientôt atteint. » Un itinéraire s'afficha dans le cortex de Ganesh.
« On fonce ! Elle m'indique la sortie !»
Jeffrey Dobbs jaugea le visiteur du regard. Il dégageait une certaine assurance, voire de l'arrogance. Crâne lisse, il n'était pas adepte des corrections génétiques. Visage impassible, yeux d'un bleu très pâle, presque glacé, costume gris et chemise blanche sans fioritures, écharpe de soie discrète, chaussures noires et brillantes. Si ses conseillers ne lui avaient pas vanté les mérites de ce caton, il l'aurait classé d'emblée dans le clan des hommes à fuir, comme la peste, d'autant qu'il était parisien. Le maire de New York jeta un coup d'œil sur l'écran vertical où s'affichait le dossier de présentation de la nouvelle biopuce vantée par le visiteur. Les conclusions des experts indépendants étaient formelles. Plus puissante, plus fiable. Remplacer les puces des générations précédentes des 120 millions d'habitants de Nilopa ne prendrait que quelques jours. Insérée dans le cortex par une simple injection comme un vaccin d'avant la fondation des cités unifiées, la nouvelle prendrait automatiquement le relais de l'ancienne et assurerait aux citadins une efficacité maximale. Et surtout, précisaient les experts, elle faciliterait le travail des grubs et des autres services de surveillance de la cité.
« Nos experts ont tranché !» attaqua Jeffrey Dobbs sans préambule en langue française. « Et rendu cette entrevue inutile !»
Aucune expression sur les traits de Caton, qui prit tout son temps pour répondre. Il est toujours intéressant de mettre des visages sur des noms. Ou cet homme est un robot, ou il a des nerfs d'acier, songea le maire. Selon ses renseignements, l'ancien patron des fouineurs de Paris n'avait pas eu le temps de présenter le projet de la nouvelle biopuce à l'ancien maire de Paris. On le disait loyal, efficace, discret et spécialiste des technologies. On m'a dit que vous aviez expérimenté votre biopuce sur certains fouineurs. Avec succès. Aucune forfanterie dans la réponse de Caton, la force de l'évidence. Elle optimise les performances analytiques et renforce les défenses en cas de besoin.
Nous en avons besoin de 120 millions, monsieur.
Il faudra moins de 3 jours à l'entreprise qui les fabrique. Le regard de Dobbs ne parvint pas à s'enfoncer dans celui de son interlocuteur. Son âme était verrouillée à double tour.
Quel est votre intérêt dans l'affaire ?
Financier, vous voulez dire ?
Argent, pouvoir, sexe, les leviers habituels des êtres humains. »
Un sourire glacial s'afficha sur les lèvres de Caton, tellement mince qu'elle se réduisait à deux traits.
« Aucun de ces leviers ne m'anime, monsieur. »«
Lequel, alors ?»«
Mon intérêt pour l'humanité. »
Dobbs hocha la tête.
« J'ai du mal à vous imaginer en bienfaiteur de l'humanité. »
« Le mot « bienfaiteur » ne me convient pas, effectivement. Disons plutôt que l'humanité est pour moi un passionnant sujet d'étude. »
Conscient d'être lui-même mu par ses leviers du pouvoir, de l'argent et du sexe, Dobbs considéra son vis-à-vis avec une curiosité mêlée de circonspection. Les idéalistes avaient toujours suscité de la méfiance en lui. Son équipe prévoyait d'attendre encore un mois pour officialiser le changement de régime. Un mois pour résoudre le problème des ombres. La population accepterait le pouvoir centralisé du maire de New York, d'autant plus facilement qu'elle se sentirait de nouveau en sécurité dans le périmètre de Nilopa.
Avez-vous entendu parler d'une certaine Sophie Almorel ?
Caton acquiesça d'une brève inclination du torse.
Un ange du renseignement placé dans votre entourage par la mairie de Paris, sous mes ordres. Je sais également que vous l'avez démasqué et que vous vous êtes arrangé pour l'éliminer.
Qui me dit que vous ne travaillez pas vous-même pour le maire de Paris ?
Un sourire froid effleura de nouveau les lèvres de Caton.
Quel intérêt aurais-je à travailler pour une structure qui n'existe plus, monsieur ? J'ai moi-même organisé les fuites concernant Sophie Almorel.
Vous êtes adepte du double jeu ?
J'ai suivi ma ligne de conduite en soutenant, à ma façon, l'avènement d'un pouvoir centralisé. Cet absurde partage des pouvoirs n'était qu'une illusion, une parodie de démocratie et une perte considérable d'énergie. Je crois désormais que la cité sera gérée de façon plus rationnelle, plus efficace. Fini le morcellement, terminez les bavardages grotesques des assemblées.
Dobbs se rendit compte qu'il avait jugé hâtivement l'étrange personnage qu'était Caton.
Dernière chose, pensez-vous que la nouvelle biopuce sera plus sécurisante face aux ombres ?
Elle nous aidera en tout cas à trouver rapidement une solution.
Qu'en sera-t-il des autres cités unifiées ?
Je suis en contact via les satellites avec certaines d'entre elles pour les approvisionner en nouvelles biopuces, au besoin en transférant la production sur leur sol.
Mes services ne m'en avaient pas informé.
Il me semblait préférable de mener les négociations dans le secret. Moins d'interférences.
Vous avez donc trouvé le moyen d'échapper aux grandes oreilles de la cité.
N'oubliez pas que je suis l'un de ceux qui organisaient la surveillance globale. Il m'a suffi de prendre quelques précautions.
Tout est maintenant prêt pour passer à l'étape suivante.
Dobbs hésita quelques instants.
Vous pouvez occuper une très belle case sur le nouvel échiquier de Nilopa, déclara-t-il.
Caton remercia le maire d'un mouvement de tête.
Maintenant que nous sommes parvenus à nos fins, je compte me retirer de la vie publique, définitivement.
Dobbs se leva pour donner congé à son visiteur.
Dommage. Si vous changez d'avis, contactez mes adjoints. Il y aura toujours une place pour vous dans ces locaux.
Caton savait précisément quelle était sa place dans cet univers. Au fond du même abîme dans lequel il entraînait ses frères humains.
N'attendons rien des cités. Elles nous ont abandonnés. Pour nous, elles n'existent pas. Pas plus que nous avons un jour existé pour elles.
Hameter, prophète itinérant.
Pays Orsit.
On fonce !
Hurla Kolb. Le trappeur poussa comme un damné sur la perche. Malgré l'obscurité, deux lunes distinguaient les autres embarcations se déployer sur toute la largeur du fleuve. L'habileté à la manœuvre des pilotes compensait leur manque de vitesse. Le pistolet pointé devant elle, Naya fouillait les ténèbres du regard, transpercée de temps à autre par les éclats des yeux des Bartlows. Dans quelques instants, ils auraient opéré leur jonction et formeraient une barrière infranchissable. Une bourrasque gonfla la voile et donna un nouvel élan au radeau. Deux lunes piqua vers le côté droit du fleuve, où les écarts étaient les plus larges entre les embarcations Bartlows. Le vent dans le dos, il prit encore de la vitesse et visa le dernier intervalle près de la berge. Le radeau racla un fond de vase, mais ne ralentit pas. Exploitant sa lancée, il eut le temps de franchir le passage avant que les autres ne le referment. Naya discerna un homme nu à l'avant de l'embarcation distante de 5 ou 6 mètres, brandissant un couteau
qu'il lança dans sa direction. Elle esquiva d'un retrait du buste la lame qui se planta avec un bruit mat dans les planches de l'abri central. Le radeau continuait d'accélérer. Delune le ramena au milieu du fleuve où le courant était le plus fort.
« Attention aux flèches !» cria Kolb.
Une dizaine de traits tombèrent autour d'eux, dans l'eau et sur le toit de la construction. Ils mirent rapidement de la distance entre eux et leurs poursuivants, et furent bientôt hors de portée des arcs Barthlos. À l'aube, ils abandonnèrent le radeau dans une crique et poursuivirent à pied sur les crêtes des falaises surplombant le fleuve.
« On en a pour 7 ou 8 jours avant d'arriver au bord de la Grande Bleue, » estima Kolb. « Mais au moins, on craindra plus d'être surpris par ces tarés au milieu de la nuit. »
« Les maladies métamorphes frappent toutes les populations, » déclara Delune.
« Ça veut dire qu'on n'est plus tranquille nulle part. Tu crois qu'on pourrait les soigner ?»«
Je ne connais pour l'instant aucun remède. » Escaladant les passages creusés par les écoulements à flanc de falaise, ils gagnèrent les crêtes. Vu d'en haut, le fleuve serpentait comme un minuscule ruisseau entre deux parois abruptes et grises, parsemées de taches vertes. Tenaillés par la faim, ils s'arrêtèrent au pied d'un piton rocheux où le trappeur repéra des déjections de sangliers. Afin d'économiser les balles de Naya, il fabriqua une lance, à l'aide d'une branche droite qu'il tailla en pointe, et durcit dans les braises du feu qu'il avait allumé. Puis, il s'enfonça dans les buissons proches, en affirmant qu'il serait bientôt de retour. Yosp s'endormit rapidement, recroquevillé contre une grosse pierre. Naya vint se blottir dans les bras de Delune, et, alors qu'il gardait les yeux rivés sur le fleuve et entretenait le feu, elle finit par s'assoupir. Kolb revint environ 2 heures plus tard, en portant sur l'épaule un marcassin de belle taille. Des ecchymoses parsemaient son visage et son cou.
« Sa mère m'a renversé et piétiné, mais j'ai réussi à la mettre en fuite !»
Il commença à dépiauter l'animal, l'embrocha et le mit à cuire au-dessus des braises. Des histoires de toutes sortes circulaient au sujet des cités unifiées. Les populations hors-site ne savaient même pas où les localiser, au point que certains doutaient de leur existence. En réalité, elles se dressaient au milieu de zones si difficiles à approcher qu'elles en devenaient maudites ou taboues. Les rares téméraires qui avaient tenté de pénétrer dans les cités n'en étaient jamais revenus, et nous avons préféré les occulter de notre mémoire, de notre histoire, les transformer en mythes. Leur système de protection et leurs armes nettement supérieures aux nôtres n'étaient pas les seules raisons pour lesquelles les hors-sites n'avaient jamais cherché à s'emparer des cités et de leurs richesses. Aucune citadelle, même la mieux défendue, n'est imprenable. Nous étions incapables d'accepter le fait qu'une partie de l'humanité nous avait reniés. L'oubli était une manière de renouer avec notre amour propre, nous que d'autres hommes n'avaient pas jugé dignes d'être mis à l'abri, dignes de vivre. On m'a rapporté ces récits où les clans hors-sites tentaient de prendre d'assaut les serres agricoles qui nourrissaient les cités. J'y ai jamais donné foi. En tout cas, dans la région où j'ai vécu la plus grande partie de ma vie, ces attaques me semblaient impossibles. D'abord parce que personne n'a jamais localisé les serres en question. Ensuite, parce qu'il aurait fallu une véritable coalition pour défier la puissance d'une cité. Et les clans étaient trop accaparés par les luttes de pouvoir pour s'unir. Les gorges se resserraient et semblaient étrangler Rhône en contrebas. 5 jours qu'ils marchaient de l'aube au crépuscule et que, harassés, ils dormaient à même le sol sur les crêtes qui dominaient le fleuve. 5 jours qu'ils se nourrissaient d'animaux piégés par Kolb et qu'ils se désaltéraient aux sources coulant des parois rocheuses et formant de petites retenues dans les bassins naturels. 5 jours qu'ils surveillaient le cours d'eau et s'assuraient, avant de bivouaquer, que la flottille Barthlos n'était pas en vue. Ils n'avaient pas aperçu la moindre silhouette depuis qu'ils avaient abandonné le radeau ni du haut des falaises ni des bords de Rhône. Le paysage changeait peu à peu, devenant de plus en plus sec, de plus en plus rocailleux. Un soleil encore chaud régnait dans un ciel uniformément bleu. Yosp, qui se débarrassait de ses vêtements dès qu'il le pouvait, souffrait de brûlures, sur lesquelles Delune appliquait un cataplasme d'herbes et de terre mélangées. Ils découvrirent un corps sur un plateau jonché de rochers sphériques. Une jeune femme, allongée sur un lit de cailloux qui, visiblement, n'était affligée d'aucune déformation, d'aucune tare. Elle n'était vêtue que d'une robe courte en partie retroussée sur ses hanches. Très fin,
peau lisse, chevelure brune, corps bien proportionné, elle paraissait plongée dans un sommeil paisible. Naya aurait aimé lui ressembler. Delune l'examina avec attention et ne décela pas la moindre blessure, ni le moindre vestige de maladie.
D'où peut-elle venir ? Demanda Kolb.
Probablement pas du pays Orsite, répondit Delune.
Les heures me parlent, intervint Yosp. Elles me disent qu'il y a beaucoup de corps, beaucoup de morts.
Elles te disent où ? Yosp tendit le bras en direction du plateau.
Plus loin !
M'est avis qu'il faut pas rester dans le coin, grogna Kolb. Les cavaliers de l'Apocalypse sont sans doute tout prêts.
Si elle avait été tuée par les cavaliers, elle porterait des traces de balles ou de brûlures, objecta Delune.
Par qui alors ?
Ça ressemble plutôt à un virus foudroyant.
Cavalier ou virus, moi je dis qu'il faut se tirer au plus vite.
Delune se releva et laissa errer son regard sur les environs. Trop tard. Si c'est un virus, il s'est déjà disséminé dans tout le secteur. Faut seulement espérer qu'il n'y ait aucun effet sur nous. Je suis d'avis de continuer vers le sud. Comme Naya et Yosp resteraient avec Delune quoi qu'il arrivât, le trappeur n'eut pas d'autre choix que de les accompagner. Ils marchèrent encore 2 heures avant d'apercevoir d'autres corps, des dizaines de cadavres jonchant un terrain vague entre les rochers. Aucun d'eux ne présentait de blessures apparentes, ni de déformations, ni même de taches de dépigmentation ou de pelade, affection courante dans le pays Orsite. Naya admira leur beauté, leur jeunesse, leur perfection. Certains d'entre eux portaient des vêtements, d'autres étaient en sous-vêtements ou en pyjama, comme s'ils avaient été surpris au milieu de la nuit.
« Bordel, d'où ils peuvent sortir ?» grogna Kolb.
« Je ne vois qu'une réponse, » dit Delune, « d'une cité unifiée. »«
Il n'y en a jamais eu dans le coin, »
objecta le trappeur. « Tu es peut-être passé plusieurs fois à côté sans jamais t'en rendre compte. »
« Ça passe pourtant pas inaperçu, une cité !»
Dandera m'a dit qu'elles étaient entourées de bordures de plusieurs dizaines de kilomètres de large, et de ce fait, invisibles.
« Des Orsites seraient tôt ou tard tombés dessus !»
insista Kolb. Il ne distinguait en tout cas aucun bâtiment dans le lointain, seulement ce terrain vallonné qui s'étendait à perte de vue.
« Il y aurait bien un moyen de le savoir, » reprit le trappeur. « Fouillez les corps. « Trouvera peut-être des indices. »
Joignant le geste à la parole, il s'accroupit près du corps d'un homme et entreprit de vérifier les poches de son pantalon et de sa veste. Il n'y dénicha rien d'autre qu'un petit pilulier en matière brillante qui contenait 2 gélules blanches marbrées de bleu. Les fouilles sur les autres corps ne donnèrent pour tout résultat que quelques comprimés de différentes couleurs et de minuscules objets dont ils ignoraient l'usage. Des nuées de corbeaux et de vautours obscurcirent le ciel. Leurs cris rauques dominaient les sifflements du vent chaud et sec qui balayait le plateau.
« Les hommes sans poils ! Ils reviennent !»
glapit soudain Yosp. Le petit homme se tenait au bord de la falaise, les yeux rivés sur le mince ruban gris du fleuve en contrebas. « Ce sont les heures qui te parlent ?» demanda Naya. Comme il ne répondait pas, elle franchit en courant la 50aine de mètres qui la séparait de lui. Le bras de Yosp se tendait vers les formes claires disséminées sur l'eau. Affinant son observation, elle reconnut les radeaux Bartlos. Delune et Kolb les rejoignirent quelques instants plus tard.
« On est pris entre la peste et le choléra !»
maugréa le trappeur. « On n'a pas d'autre choix que de continuer tout droit !» avança Delune.
« Avec tous ces morts, ce serait se jeter dans la gueule du loup !»«
Tu préfères les Bartlos ?»
« Suffit de s'en éloigner à certaines heures. »«
On peut pas prévoir leur réaction. La maladie peut évoluer. »« Je pense comme Delune, » intervint Naya.
« Oh, toi, il te dirait de te jeter dans le feu, que tu le ferais avec plaisir, »
siffla le trappeur. Naya fut traversée par la brève mais violente envie de lui vider le chargeur de son pistolet dans le ventre.
« Je m'en suis toujours sortie grâce à lui, »
se contenta-t-elle de répliquer les mâchoires serrées. « On s'en est tous sortis grâce aux autres, » affirma Delune. La flottille Bartlos s'étirait maintenant sur toute la longueur du fleuve. Ils se remirent en chemin avant qu'elle ne se soit entièrement engagée dans les méandres suivants, en partie occultée par les reliefs rocheux. Ils traversèrent le terrain vague sur plusieurs kilomètres, jonché par endroits de cadavres. Un engin de grande taille
s'était échoué sur le sol et éparpillé en plusieurs morceaux.
« Ils ressemblent à ceux que j'ai parfois vus passer au-dessus de ma tête, » déclara Kolb. « Je me suis toujours demandé d'où ils venaient. »
À l'intérieur de la partie intacte de la carcasse, gisaient trois corps, dont l'un ressemblait à un pantin désarticulé.
« Les heures me disent, une force méchante a tué ces gens. Elle cherche à tuer tous les autres !»
brama Yosp. « Une force méchante, c'est tout ce qu'elles te disent ?» demanda Naya.
« Elles me disent, une force qui ne se voit pas, mais qui est partout !»«
Est-ce qu'elle peut nous tuer ?»«
Les heures ne me disent pas !»
Naya tira son arme et en déverrouilla le cran de sûreté.
Si la force dont il parle est capable de terrasser un engin de cette taille, ton joujou ne servira pas à grand-chose,
marmonna Kolb. Un mur d'enceinte se dressait quelques kilomètres plus loin. Un rempart de béton et de fer, d'une hauteur de plusieurs centaines de mètres. Ces deux portes béantes semblaient avoir vomi des milliers de cadavres et des débris d'engins accidentés.
Nom de Dieu ! S'exclama Kolb. Putain de massacre !
« Récent, » précisa Delune. « Il n'y a pas encore d'odeur de putréfaction ni de charognard. »«
Faut foutre le camp avant qu'on soit désingué à notre tour !»
Si elle avait pu le faire, la force dont parle Yosp nous aurait déjà tués.
« Tu veux dire qu'elle peut rien contre nous ?»
Delune acquiesça d'un hochement de tête. « Elle utilise sans doute des caractéristiques des habitants des cités dont nous, les Horsites, sommes dépourvus. »
À part le fait qu'ils sont moins abîmés que nous, je vois pas ce qu'ils ont de différent.
Les craillements des premiers charognards lacérèrent le silence sépulcral ensevelissant les lieux. La réponse se trouve sans doute de l'autre côté de ce mur. Ils se dirigèrent vers la porte la plus proche de la falaise, progressant entre les corps entremêlés. Les visages des cadavres n'exprimaient aucune horreur, aucune souffrance, comme s'ils avaient été fauchés en douceur. Un petit engin circulaire vint les survoler en grésillant, alors qu'ils arrivaient à hauteur du rempart. Terrorisé, Yosp s'agenouilla sur le sol, la tête enfouie entre les bras et les cuisses. L'engin demeura un petit moment en vol stationnaire au-dessus d'eux, avant de s'éloigner et de devenir un point scintillant dans le bleu du ciel. « Probablement un engin de surveillance, » fit Delune. « Notre arrivée n'est pas passée inaperçue. »«
Moi je dis qu'on ferait bien de foutre le camp !» vitupéra
Kolb. Encore une fois, si la force avait pu nous tuer, elle l'aurait déjà fait. Elle n'a aucune prise sur nous. Une peur sourde se déployait en Naya. Aucun des dangers qu'elle avait rencontrés dans le noyau, puis au cours de son périple avec Delune, ne lui avait paru aussi angoissant que ces milliers de corps totalement dépourvus de blessures apparentes, que cette cité morte. Cependant, lorsque Delune s'avança d'un pas décidé vers la porte, elle n'hésita pas une seconde à lui emboîter le pas. Elle préférait aller en enfer à ses côtés plutôt qu'être séparée de lui. Yosp se releva avec vivacité et les rattrapa en courant. Kolb haussa les épaules et, après avoir jeté un regard inquiet sur les alentours, se lança sur leurs traces. Je sais toujours pas ce qui m'a valu d'échapper aux ombres.
J'habitais alors Néomars. Je vivais seul dans l'un de ces petits appartements qui donnaient sur la mer. Enfin, sur une illusion de mer. On ne peut pas parler de Néomars comme d'une cité unifiée, mais plutôt comme d'une citadelle fortifiée. Toutefois, même si elle n'était pas membre du Conseil, elle restait reliée aux autres cités et bénéficiait de toutes les avancées technologiques et de la couverture des satellites. Elle avait pour marraine les puissantes cités de Tumigé et de Barper, avec lesquelles elle commerçait régulièrement, principalement par les voies maritimes. Elle disposait d'une force militaire autonome qui défendait ses serres agricoles contre les agressions hors-site et maintenait l'ordre dans une population encline à l'indiscipline. Son rempart et ses filtres, moins perfectionnés que ceux des autres cités, avaient une particularité. Ils se présentaient aux éventuels intrus comme des trompe-l'œil, des leurres, et les attiraient vers des chausses-trappes dans lesquelles on a retrouvé plusieurs squelettes. Sa population, modeste en regard des 60 ou 70 millions d'habitants des cités les plus proches, avoisinait le million d'âmes. Le Conseil parla à plusieurs reprises de lui retirer son soutien, mais les magistrats de Néomars, brillants orateurs, parvinrent à chaque fois à retourner l'opinion en leur faveur. Lorsque les ombres ont lancé leur attaque massive,
j'étais sur la table d'opération de la clinique Bonne Mère. Les chirurgiens venaient de retirer mon ancienne biopuce pour m'implanter la nouvelle fournie par la cité de Nilopa, qu'ils sont tombés comme des masses, foudroyés. Je me suis relevé. Partout le même spectacle dans les couloirs et les salles de la clinique. Des corps inertes, comme endormis. Personnel soignant, patient, personnel administratif. J'irai longtemps dans la cité transformée en ville fantôme. Je me suis rendu chez mes amis, dans ma famille. Morts. Tous morts.